La question de Michael.
Donc, on a parlé tout à l'heure des goïms qui nous détestent. Pourquoi, depuis des générations, les goïms nous valent cette haine voilà. Pourquoi?
Bon, d'abord, pas tous les goïms nous haïssent, mais il y en a effectivement qui nous haïssent. Ben, c'est une raison très simple, humaine. Lorsque tu as dans un village, il y a des maisons d'un étage. Et bien quelqu'un construit une maison de 10 étages. Réaction de tout le monde, la haine, la jalousie. Le mont Sinaï s'appelait Chorev. La Gemara dans Traité Shabbat dit, pourquoi on l'a surnommé Sinaï? Parce que le jour où Am Yisrael a reçu la Torah au mont Sinaï, Yarda Sina est descendue la Sina. Sina, c'est la haine. Le mot Olam au peuple de la terre. Le fait que nous ayons, Am Yisrael, une relation privilégiée avec Dieu, crée une jalousie. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, c'est que certains goïms sont la merkava, sont le chariot du mal. Or, il est nature du mal de haïr le bien. Dieu a créé sur terre le bien et le mal. Le bien, c'est ce qui se rapporte à l'éternité, ça se rapporte à Dieu. Ce qui est en relation avec Dieu, c'est le bien. Ce qui est contraire à Dieu, c'est le mal. Et tu vois des gens qui ont une haine anormale, irrationnel de tout ce qui a à voir avec Dieu, avec la religion juive en tout cas, absolument anormal. Regarde Hitler. Hitler dit qu'il n'y a que l'impudence juive pour dire qu'on doit aller contre la nature. La nature, comment elle fonctionne? Le fort dévore le faible. C'est juste, il a raison. Comme ça fonctionne la nature, on n'a jamais vu les faibles qui gagnent. Mais c'est immoral. C'est pas la moralité dit non. La moralité dit « protège le faible, parce que tu es fort que tu dois bouffer le faible. » Alors qu'est-ce qu'il dit Hitler ?« Das Gewissen ist der jüdische Erfindung » en bon allemand. La conscience morale est une invention juive. La conscience morale. C'est quoi conscience morale? Ça veut dire que tu as des pulsions du corps. Naturellement, un homme, il aime violer, il aime voler, il aime... tué, il est cruel, chacun a des pulsions de ce type-là. Maintenant, sa conscience les réfrène, il dit, tu n'as pas tué, tu n'as pas violé, tu n'as pas volé, qu'est-ce que c'est ça? Ou juste un peu, magouillé, d'accord? On fait une sorte de deal, de compromis entre notre pulsion et notre conscience. Et même les petits-enfants ont ça. Un petit enfant, quand il a fait une bêtise, si ses parents ne le réprimande pas. Lui-même, des fois, les psychologues disent cela. On voit que lui-même se tape la tête dans les murs, il se cogne quelque chose exprès, quelque part pour calmer sa mauvaise conscience, parce qu'il a une mauvaise image de lui. Mais si quelqu'un va maintenant de façon systématique casser, annihiler, chacun est né avec une partie innée de bonne conscience, la neshama, et une partie aussi qui est négative, de pulsion négative. Maintenant, l'un est contraire à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien il doit décider de réfréner les pulsions, mais s'enquiquinant, parce que tu aimes suivre tes pulsions. Ou bien il doit poursuivre les pulsions sans aucune mauvaise conscience, annuler sa conscience. Annuler. Il y a, hélas ici en Israël, il y a un groupement qui s'appelle le groupement Hillel. C'est comme il y a des organismes qui s'occupent de faire tshuva aux juifs, de montrer la Torah pour vous voir, il y en a qui s'occupent de faire quitter aux religieux la Torah. Il y en a par exemple qui, un temps, il a été attrapé pour finir, un type, il prenait des vous savez qu'à la sortie de la ville, ici à Jérusalem, tu as beaucoup de gens qui font du stop, des religieux, ils vont amener les bras qui font du stop. Alors lui, il est en voiture, et il prend comme ça un autostoppeur religieux, et en route, il roule à 120 km à l'heure, donc personne ne peut descendre, il met de la musique avec des sons de bonnes femmes en train de Hachem Ishmor et lui montre des revues spécialisées. Et évidemment, 3-4 jours de route, comme ça, le gosse, il tombe dans le panneau. Alors, certaines personnes qui ont fait l'expérience, donc qui ont quitté la religion, on les a amenés dans un restaurant et le fond, il lui dit, écoute, il y a un seul moyen. Si tu veux vraiment pas souffrir, D'un coup, tu manges du porc, tu manges les crevettes, d'un coup, tu quittes tout. Parce que si on va lentement, la mauvaise conscience, on a la mauvaise conscience. La Neshama te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais d'un coup, mange la Touma, rentre d'un coup dans tout le... Comme ça, c'est fini, terminé. Effectivement, donc quelqu'un m'a parlé d'un ami à lui qui a... On lui a fait faire ça. Et bon, alors lui, aujourd'hui, il est out. Il y a une bagarre entre cette mauvaise conscience et nos pulsions. Plus, le seul moyen de suivre la pulsion de façon relaxe, c'est annuler cette mauvaise conscience. Je raconte l'histoire de mon oncle. J'ai un oncle très riche à Londres, anti-religieux, qui a dit un jour à ma mère, sa sœur, regarde, je suis jaloux de ces Anglais qui prennent une chope de bière dans la main gauche, un hot dog dans la main droite, regardent un match de foot, et c'est leur kiff de leur vie. Ils oublient tout. Moi, je ne suis pas capable. Pourquoi il n'est pas capable? Il y a une chose qui lui dit en lui, il n'y a pas que ça dans la vie. La bière, le foot et le hot dog. Il n'y a pas que ça. Donc, on a une conscience. Il y a des gens qui sont Merkava, qui sont chariots du mal, et ils veulent absolument casser. Ils veulent casser cette source de bonne conscience. Ceux qui sont totalement la Merkava, le chariot de l'impureté, s'appellent Amalek. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de l'imchot zecher Amalek. D'oublier, d'effacer son souvenir. Aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est Amalek, mais à la fin des temps, Mashiach viendra, et pour que le bien puisse venir sur terre, il est condition sine qua non d'éradiquer complètement Amalek. Qu'il y a, comme il y a un chariot de la un véhicule de la divinité, tu as un véhicule du mal. Ce véhicule du mal doit être éradiqué. Parce qu'il influence le monde très très fort. Il a une influence très grande. Réchit Goïm Amalek, c'est marqué, c'est le premier des peuples. Et un autre peuple qui appelait Réchit, c'est Am Israël. Il y a deux entités, deux pôles contraires dans le monde, Amalek et Israël. Amalek, c'est la source maintenant. Tu as beaucoup de gens qui sont influencés par Amalek. C'est la source de tous ces Goïm qui nous haïssent. Bientôt. Aujourd'hui, regarde, c'est extraordinaire. C'est phénoménal. Israël a reçu en quelques années des milliers de roquettes Qassam et maintenant des Grad et des Katyusha, etc. d'Irak, de Gaza. Enfin, ils commencent un peu à se bouger, ces Israéliens, et décident de cibler uniquement les responsables, pas les femmes et les enfants. Le monde entier se lève. Comment vous aurez? C'est faux palestiniens, laissez-les vivre. Imaginons demain un mouvement nationaliste corse envoie des roquettes sur toute la Côte d'Azur. Nice, Jean Lépin, Cannes, Marseille, boum, un tir, pas beaucoup, 10 roquettes en tout. Qu'est-ce qu'ils font la France? Ils envoient l'opération de parachutistes, la Légion étrangère. C'est terminé. Et si ça continue encore, ils envoient de la forêt, tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne vont pas se laisser faire. Donc aucun peuple au monde n'a une chose pareille. On veut pas bouffer Gaza, on veut qu'ils nous laissent tranquilles, on vous donne un pays, voilà, on vous donne. Prenez ce pays, laissez-nous tranquilles. Vous l'avez, on vous le donne. Le monde entier se lève, comment vous osez vous défendre? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est la haine d'Israël, je veux dire, raisonnement tordu, mais tous. Qui s'est levé pour dire, ce que je dis, c'est pas tellement intelligent. Ça tient la route. Phénoménal. Un jour viendra, pas dans beaucoup de temps, où le bien va se dévoiler, et quand le bien se dévoile, c'est quoi le mal? Le mal, c'est l'obscurité. Quel est le meilleur moyen de faire disparaître l'obscurité? Allumer la lumière. Dieu va aimer la lumière, va dire, coucou, je suis là, et zlip, le mal disparaîtra.
Il n'y a pas aussi le fait qu'ils nous en veulent qu'on ait accepté la Torah alors qu'eux l'ont refusé quand même.
Mais viens, prends-la. Si quelqu'un maintenant veut prendre un non-juif qui veut se convertir, on le reçoit les bras ouverts. Bon, voilà, ça veut dire, la Gemara dit, le moment qu'on est convaincu qu'il est sincère, il faut le convertir le plus vite possible. Pourquoi? Mitzvah lo machinan. Mitzvah, on ne laisse pas traîner. Donc quelqu'un qui veut se convertir de façon sincère, tout de suite. Donc il peut. Alors ne dites pas qu'on t'a bloqué. dit pas qu'on est peuple élu et nous oui et vous non, nanana. Non.
Sur le fait que Hachem est venu leur proposer, ils ont dit non, c'est trop dur, et nous on l'a quand même pris.
Alors, bah non, ils sont jaloux. Ils sont jaloux, bien sûr ils sont jaloux. Tu as deux enfants. Et le père leur dit aux deux, écoutez, maintenant voilà, je vous demande une mission. Un dit ça m'intéresse pas, l'autre dit ça m'intéresse. Il fait la mission et après il devient le chouchou du papa. Bah, l'autre, qu'est-ce qu'il réagit? Il veut pas gratter dans le lit de son frérot, s'il est gentil, s'il est méchant, il vient l'étrangler la nuit, c'est tout. Tout à fait normal. C'est la preuve la plus belle que nos Torah est de vérité, que ça fait 3200 ans que ce peuple existe, ça fait 3200 ans que les goyim nous haïssent. T'as pas plus extraordinaire que cela. Si, que malgré cela, on survit. Ça, c'est le deuxième miracle. Ce qui est anormal, que tout le monde nous tombe dessus. Ça, c'est suffisant pour te dire, regarde, il y a quelque chose qui cloche. Qu'il y a une bonne raison au niveau d'une conjoncture politique pour haïr un certain peuple, je veux bien. Un siècle, deux siècles, trois siècles, mais pas 3000 ans. Et qu'on survit. La Gemara dit dans Yoma, Daf 69, page 69. Jérémie Hanavi, lorsqu'il a vu le temple détruit, il a dit, comment est-ce qu'on peut continuer à dire dans la prière, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora, le Dieu, Gadol, grand, Gibor, puissant, Nora, terrible, c'est-à-dire qui inspire la crainte. Comment il inspire la crainte? Des goïms viennent, font la fête dans son temple. C'est marqué que Titus est venu, c'est le deuxième temple. Lui, Jérémie était premier temple, c'est le même principe. Il a pris une prostituée, il a déroulé un Sefer Torah, il a fait une avéra avec sur le Sefer Torah dans le Saint des Saints. Et Dieu laisse faire. C'est quoi terrible? Quoi que Dieu maintenant inspire la crainte? Il a enlevé le mot Nora. La prière de Jérémie, il priait, le prophète, il priait Akel Agadol, Hagibor, c'est tout. Pas vers Nora. Sont venus les sages de la grande assemblée. Lorsque le deuxième temple a été construit, il y a eu une assemblée de 300 sages. Les sages de la grande assemblée, parmi lesquels il y avait quelques grands névim aussi, quelques grands prophètes. Haggai, Zecharia, Malachi. Et pourquoi on appelle ces sages la grande assemblée? On dit la Gemara parce que Erziru Atara Yoshna, ils ont remis la couronne à sa place, à son ancienne place. Ils ont remis le kavod de Dieu. Ils ont dit, oui, on va mettre le mot Nora. Pourquoi? Comment se fait-il qu'une brebis survit parmi 70 loups, si ce n'est qu'elle est un berger qui inspire la crainte? Un berger terrible. Et messieurs écrivent, c'était il y a 2300 ans. C'était en moins 300. Il y a 2300 ans, ils disent, comment une brebis peut survivre parmi 70 loups? Et ça fait 2300 ans que ça continue. Et chaque siècle, c'est encore plus extraordinaire. Grâce au berger. Terrible berger, extraordinaire berger. Ah, ils peuvent se lever tous maintenant dans le monde. Ahmadinejad, c'est pas qu'on doit rester insouciant. On doit se soucier, et on doit prier, et on doit pleurer. La situation, elle est très, 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 très grave. Très, 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 très grave. Il n'y a pas de solution pour Gaza. Il n'y a pas de solution. Tu as 1,5 million d'Arabes là-bas, qui, depuis qu'ils sont nés, sont éduqués à la haine. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? J'ai pris l'avion maintenant pour Massa, il m'a raconté, son neveu est à l'armée. Ils ont amené des dizaines de milliers d'Arabes, les femmes et les enfants vont au premier rang, derrière les militants, le Hamas avec les micros, ta-ta-ta, Allahu Akbar, ta-ta-ta, sans cesse, et ils avancent. Et tous les moyens pour les... On n'arrive pas à les arrêter. Ils ont dû faire pour les arrêter. Ils ont dû commencer à faire un tir de vraies balles qui s'arrêtait 10 mètres devant eux. 10 mètres, on ne tirait pas sur eux, on tirait 10 mètres devant eux, mais là, un feu extrêmement nourri, sans cesse en train de tirer comme ça, pour pas qu'ils puissent avancer. Pendant une heure et demie, là, ils se sont calmés. Et pendant ce temps, les tireurs d'élite repéraient les meneurs, les vrais dirigeants du Hamas, et pouf, comme ça, ils descendaient. Dans le monde, on nous accuse d'avoir tué des civils, des hommes, des femmes. Bêtise. Qui dans le monde aurait fait un truc pareil? En Syrie, il y a eu un village, une ville, 10 000 personnes. Il y a des rumeurs qu'on n'était pas tellement d'accord avec le régime du père Assad. Il a amené les tanks, il a entouré la ville, avec des risques de tir, sur cible vivante. Ils ont fait un monticule de ruines de cette ville. Saddam Hussein. Il y a une ville qui s'appelle Naxf. Naxf, c'est la ville des officiers. Tous les officiers de l'armée habitent là-bas. 20 000 habitants. Quelques officiers dans l'armée de l'air n'étaient pas tellement d'accord avec le régime. Ils l'ont dit comme ça, en comité restreint. Saddam Hussein a décidé, jour de vacances pour l'armée. Un jour de vacances, c'est beau temps, un bon jour de printemps comme ça. Que font les officiers? Tous les officiers rentrent à la maison. Il amène l'aviation, il a bombardé toute la ville. Tout le monde s'est calmé. Bin Laden, il touche l'Amérique, Bush, tout l'Afghanistan. Quelqu'un dit quelque chose? Non, c'est roquetté depuis 10 ans. Des roquettes qui nous tombent dessus, on essaie d'aller au millimètre. Simon Peres, il a dit, le problème c'est quoi? C'est que nous, on a plus pitié des enfants arabes que leurs parents. Il m'a raconté, ce soldat-là. Il mène les gosses, le gosse veut partir, le père vient, lui donne des gifles, en avant, va en avant. Comment ils ont fait entre la guerre, entre l'Iran et l'Irak? Il y avait des champs de mines, et les enfants sautaient sur les mines. C'est un ennemi très dur. Il n'y a aucune solution. 1,5 million de personnes là qui veulent notre fin. Au prix de leur vie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et maintenant, ils ont reçu les armements de l'Irak, parce que depuis qu'ils ont ouvert la frontière avec l'Égypte, donc ils ont reçu beaucoup d'armements très lourds. Donc ça va barder. Pourquoi je disais tout ça? Ouais, mais pourquoi je suis arrivé à ça sur Gaza? Ouais, je dis, alors voilà, j'ai dit comme. Alors, il n'y a pas de solution. À vue de nez, il n'y a aucune solution. Je vois pas comment. Il n'y a aucune solution. Il faut qu'on prie, il faut qu'on pleure. Et Dieu est le seul qui peut mener la solution. C'est une chose est certaine. Tous ces ennemis-là ne pourront pas. Ami, ça restera. Ça fait 3200 ans qu'ils rêvent qu'on disparaisse. On ne disparaîtra pas. On sera touché peut-être. Chassé, il y aura des morts. Chassé, shalom. Mais, il n'y aura aucun. Mais Ami, ça ne disparaîtra pas. Eux disparaîtront. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ce qui risque de se passer pour peut-être les 5 minutes qui me restent, peut-être vous. Je vais raconter, il y a un cours que j'ai fait qui s'appelle Yaakov et Adolphe, dont je recommande de l'écouter, ceux qui l'ont pas écouté, où je monte dans Parashat Vaishlach, toute la Shoah, tout comme le retour d'Israël, etc. Une partie que j'ai jamais compris, c'était, on voit que, c'est marqué comme ça, c'est que Yaakov est arrivé, Vayavo, Yaakov, Shalem, Air, Shrem. Yaakov, il est venu, alors le pshat, le sens simple, il est venu, Shalem, c'est quoi Shalem? Entier dans son âme, entier dans son corps, entier dans sa fortune, entier dans sa Torah. À Ir Shrem, à la ville de Shrem. Rachid est sur place. Erev Shabbat, c'était la veille de Shabbat. Au nom de Sheilto de Rav Chaim Gaon. Sheilto de Rav Chaim Gaon, c'est un écrit qui date d'il y a 1200 ans, les Gaonim. Je pose la question, qu'est-ce qu'on a à faire quand Yaakov est arrivé à Shrem? Rien à faire. C'est du même verset, Vayichan et Pneahir. Il a campé en face de la ville. Après, la Torah raconte que Dina est allée visiter un peu, fréquenter les filles de Shrem. Et Shrem ben Hamor, le fils du maire de la ville, il a repéré Dina qui était bien plus belle que les Shremoises. Et il a violé. Et il a voulu se marier avec elle. Alors elle est allée voir les fils de Yaakov. Yaakov était absent. Il dit, écoute, moi je suis prêt, mais je veux me marier avec votre fille, avec votre sœur. Donnez-moi n'importe quel prix de dot, je paye la dot, je veux me marier. Les frères de Dina, fils de Yaakov, ont dit, pas de problème. Mais nous, on a un problème, c'est que nous, on ne marie qu'avec des gens qui sont circoncis. Alors, circoncisez-vous et je vous donne la fille. Shrem va voir tout, réunir toute la ville, leur dit, écoutez, il y a une bonne affaire, c'est une famille très bien, des gens, le business, bien le business, les juifs, tout ça. Ils demandent que on circoncis. On pourra se marier avec leur fille, on pourra se marier, etc. Bon. Ils acceptent. Shimon, le troisième jour après sa concision, c'est le jour où on est le plus faible. Shimon et Lévi prennent leur épée et ont tué 24 000, toute la ville, 24 000 personnes, tous les mâles, ils ont tous égorgés. Yaakov revient, apprend ça, il dit, vous êtes complètement dingue, vous êtes complètement marteau. Achartemoti, bene, yoshev haaretz. Vous m'avez troublé, rendu, comment tu m'as traduit ça l'autre jour? En mauvaise posture face aux habitants de la terre. Et moi je suis très peu, Baknani ou Baprisi, parmi le Cananéen et le Phariséen, Viko, ils vont venir et ils vont me frapper, ils vont me tuer. On est peu, entouré de. Tu es complètement fou, tu as fait un génocide, marteau. Qu'ils y répondent des frères, Achezona et Asse et Achoté, donc ils vont violer notre sort comme ça sans qu'on réagisse. Yaakov s'enfuit. Vaïr, Chitat Elokim, Alearim. Il y a eu la crainte de Dieu. Tout, on a eu, Dieu a mis une sorte de crainte sur tous les pays aux alentours, tous les peuples aux alentours. Ils n'ont pas poursuivi, ils n'ont pas poursuivi les fils de Yaakov pour les génocides qu'ils ont faits. Et tout à coup, Dieu se dévoile à Yaakov, il lui dit, ok, c'est bon maintenant, tu rentres dans la ville. Rentre à Jérusalem, sur la montagne, Bethel, au temple, et fais les sacrifices que tu m'as promis de faire. Le Néder, tu as fait un vœu de me faire un sacrifice. Yaakov dit à sa famille, enlevez vos habits, changez vos habits, enlevez tous les avodazar qu'il y a chez vous, donnez-moi vos piercings, c'est marqué Nezamim, les boucles d'oreilles. Et tout le monde se purifie, et ils rentrent, ils vont à Bethel. Et ils font là-bas le sacrifice, et Dieu se dévoile à Yaakov. Il dit, dorénavant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et des rois sortiront de tes entrailles. Non, l'ange l'a averti que plus tard, son nom sera Israël. Maintenant, viens, Dieu lui dit, maintenant c'est terminé, tu ne seras plus Yaakov, tu seras Israël. Bon. Mon explication personnelle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, dans la continuation de la Shoah, il y a l'entrée en terre d'Israël. Vayavo Yaakov Shalem Irshrem. Je lis avec une autre lecture. Vayavo Yaakov, vin Yaakov Shalem. Ça signifie dans le sens simple, entier. Moi je dis Vayavo Yaakov Shalem, il est venu à Shalem. On peut dire ça. C'est quoi Shalem? Le nom d'une ville qui s'appelle Shalem, c'est quoi? On a un roi qui s'appelle Malkitzedek, Melech Shalem, du temps d'Abraham. Malkitzedek, le roi de Shalem. C'est quoi Shalem? Yerushalayim. Yerushalayim, son nom c'est Shalem. Vient Yaakov à Shalem, Yerushalayim, Ir Shrem. C'est quoi Ir Shrem? La ville qui est habitée par la population autochtone, Shrem. Donc aujourd'hui, les Arabes de la région. Vaïchan el Pnaïr. Il ne s'est pas installé dans la ville, il s'est installé en face de la ville. Jérusalem, c'est où? La vraie Jérusalem, c'est l'endroit du temple. On s'est mis, nous, les Juifs, Yaakov. C'est qui Yaakov? Yaakov, c'est marqué dans le Talmud que Yaakov n'est pas mort. Demande à Gmara, comment tu me dis qu'il n'est pas mort? Alors c'est marqué qu'il est mort, et qu'on l'a momifié, on l'a enterré, on a fait une raison funèbre. Gmara dit, Mazaro Bahaim, Afu Bahaim. De même que lui, que sa descendance est vivante, lui est vivant. Donc quand on parle de Yaakov, c'est Am Israël, c'est nous. On s'est installé en face de la ville. Le Gaon de Vilna a écrit il y a 300 ans, lorsqu'il y aura 600 000 juifs à Jérusalem, en face de Jérusalem, la clipa de Ishmaël, l'écorce de mâle de Ishmaël va être cassée, et on pourra rentrer à l'intérieur. C'est l'époque messianique. Et c'est ce qui s'est passé durant ce siècle-là, que peu à peu, la population juive, elle a grandi autour de Jérusalem. On est autour, on n'est pas dedans. On est 600 000. Et Rachid dit sur place, Erev Shabbat, la veille de Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est l'époque messianique. C'est la veille de Shabbat. Vayichan et Pnaïr s'est mis en face de la ville, Erev, la veille de Shabbat. Après, il y a Maasedina. Et ça fait 10 ans que je me casse la tête. C'est quoi cette histoire de Maasedina? C'est quoi cette histoire-là de Maasedina? Je crois que j'ai compris aujourd'hui. Ils nous violent. Ils nous envoient des roquettes par le sud, par le nord. C'est marqué qu'ils ont violé par tous les côtés. Par le sud, par le nord. On ne peut rien faire. On est. C'est vraiment un viol. Malgré tu violes, maman. On appelle ça violer l'espace aérien, d'accord? C'est... Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, j'en parle spéculation. C'est certain. Ils vont le rentrer dedans. Ils vont leur rentrer dedans. Parce qu'il n'y a pas le choix. Ça, elle va rentrer à Gaza, elle va les ratatiner. Il n'y a pas le choix. Ils ont maintenant reçu des roquettes. Ils ont dit, le Hamas a dit, on a des roquettes aujourd'hui qui peuvent toucher toutes les villes d'Israël. Ça ne va pas se laisser faire. Ils vont leur rentrer dedans. Yaakov va dire, mais tu es complètement marbré. Yaakov, c'est-à-dire les Juifs vont dire, tu es complètement dingue. Mais tu rentres dans... Mais regarde, aujourd'hui tu as touché... quelques responsables, déjà le monde il s'est levé, il y a une session spéciale de l'ONU, parce qu'on a touché leur tête. Maintenant imagine que tu le rentres dedans vraiment, mais le monde entier va hurler. Tu rigoles? Mais qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Achartem anti benaz, vous m'avez rendu sale aux yeux des gens de la terre. Moi j'étais propre. Dans tous les juifs qu'on verra, tous les juifs qu'il y a dans le monde, on dira, ah ça, tu fais partie de Yaakov, hein? Vanim metemea, je suis peu. Baknani ou Baprizi, Knaani, c'est quoi le Knaani? Je vais raconter ça souvent ici. C'est marqué dans Obadiah, Obadiah le Navi, le prophète. C'est un chapitre. À la fin, c'est marqué. Les Knaanim, Ad Tsorfat. Les Knaanim, les Canaanins qui étaient ici, sont allés en France. Tsorfat. Le Ibn Ezra vivait il y a 1000 ans, il écrit Tsorfat, France. Je suis peu, mettez mes hâtes parmi les Français et parmi les Parisiens. Comment on dit Parisien en hébreu? Parisiens. Alors Yaakov dit, alors qu'est-ce qu'ils répondent les tzahal, qu'est-ce qu'ils répondent les frères de Yaakov? Mais ok, t'es gentil, mais on va pas se laisser comme ça enquêter toute la journée. On peut violer notre sort sans qu'on réagisse. Néanmoins, Yaakov leur dit, et Yaakov a refusé de les bénir. Quand béni, à la fin de sa mort, à la fin de sa vie, Yaakov a béni ses enfants, il bénit tout le monde sauf les deux frères, Shimon et Lévi, à cause de Maaseh Shrem, de ce qui passait à Shrem. Donc je ne sais pas moi, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, j'ignore. Mais en tout cas, la situation elle est inextricable. Qu'est-ce qu'il y aura dans Hachem? Vayichitat Elohim Aleharim. La crainte de Dieu s'est mise sur toutes les villes autour, mais leur voir Ben Yaakov. Ils n'ont pas poursuivi Ben Yaakov. Et là, tout à coup, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ou Mashiach, ou un prophète qui dit, ok, les bottes, c'est terminé maintenant. Faites chouva, changez vos habits, enlevez les Elohenecha, enlevez les idoles qu'il y a parmi vous. Les idoles, chez les fils de Yaakov, il y avait des idoles. On ne parle pas des fils de Yaakov, on parle de nous. Un, c'est le football, l'autre, c'est l'argent, le troisième, c'est que ce que j'en sais, moi, les filles, d'accord, chacun avec ses idoles. Enlevez tout ça. Enlevez les piercings. Et on va monter maintenant à Betkel, la maison de Dieu, à l'endroit du temple. Bimera, amen ou amen. En espérant que ce n'est pas qu'une fiction.